Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
La rencontre, la traverse, Dumont.
Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour. Bonjour.
Alors, est tombé tantôt ce vote, ce mandat de grève générale illimité des travailleurs en CPE de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec affiliée à la CSQ, un vote à 91,2%. D'un, est-ce que ça vous surprend et est-ce que ça va rester au stade de menace où on se dirige vraiment vers une grève générale illimitée?
Mais je vais t'avouer, ça me surprend pas. Parce que les éducatrices, les intervenants, tous les gens en CPE sont conscients qu'ils n'auront jamais une meilleure entente. Il n'y aura jamais une meilleure fenêtre pour donner un gros coup sur le condition de travail et leur salaire que celle qui est présente en ce moment.
Est-ce qu'on aurait pu penser, Emmanuel, que les éducatrices allaient dire, ben nous, on les a, là, nos hausses, puis on va pas nécessairement se battre pour les gens en alimentation, en entretien?
Ben, quand t'es encore dans le... On verra au moment d'une offre qui est déposée, mais en ce moment, c'est difficile de se désolidariser de tes collègues. Hein?
Mais tu penses qu'il va y avoir une autre offre?
Non, mais je sais pas, on va voir. Mais là, le problème que ça pose, c'est un problème pour le gouvernement. Parce que la réalité, c'est que le gouvernement a gagné son pari dans tous les autres secteurs. Donc, éducation, infirmière, et pour les préposés aux bénéficiaires en CHSLD, d'avoir des offres différenciées. Donc, que les augmentations de salaire pour ces employés-là n'étaient pas les mêmes que pour les autres. Et ils essaient de faire la même chose avec les éducatrices, on s'entend. Et donc, là, il y a un vote de grève très, très fort pour contrecarrer ça, pour
mais
que
en même
tout
temps,
le monde ait droit
un vote de grève, énorme... un vote de grève pas exécutoire, là. C'est une grève un jour.
Non,
là.
Non. Mais donc, le gouvernement peut difficilement céder, tu sais. Parce que après ça, il n'y aura plus jamais la marge de manœuvre pour faire des offres différenciées là. Alors, c'est un peu comme l'enjeu du précédent là, qui vient compliquer, je pense, la tâche du gouvernement. Ouais, c'est ça. Quant à l'exécution, ben là, il y a tout un flou, hein. Faut que ça se règle avant Noël. Donc on dit OK, ils déclencheront pas la grève avant Noël. Mais on pourrait être en grève lundi prochain. Fait que là, s'ils veulent maintenir la vie des parents, il faut mieux de pas trop jouer avec leur mère, si c'est mon opinion.
Ouais, mais moi j'ai plus de nuances là, dans ça. D'abord, s'ils veulent être, la grève, c'est lundi matin ou c'est pas pantoute. Là. Je veux dire, tu veux un vote de grève. Quand tu votes des journées de grève flottantes, c'est correct de dire on va voir comment va évoluer la discussion, puis on pourra les déclencher au besoin. Mais quand tu déclenches une grève générale illimitée, c'est lundi matin et c'est fini. Là, tu fermes les garderies puis tu fermes jusqu'à un nouvel ordre. Sinon, c'est quoi? C'est une menace de grève générale illimitée, mais qui est pas exécutoire, qui pend là. Et tantôt, ils ont semblé dire ben là, on va avertir les parents d'avance. Je pense que à partir du moment où tu votes ça, là, le gouvernement arrête la négociation. De toute façon, il n'y a plus rien à négocier. Le gouvernement a tout donné aux éducatrices, est pas intéressé à donner davantage aux autres groupes d'employés. Donc, je sais pas où on s'en va. Moi, je suis au gouvernement, je bouge plus, là. C'est fin de l'épisode, j'attends. Puis, pour le reste, c'est des semaines et des mois de grève. Puis je me dis désolé pour les parents. Peut-être qu'on peut compenser les parents qui vont perdre en leur donnant des crédits d'impôt ou leur donnant je donnerais moi, des compensations financières aux parents là pour la perte du service, pour se trouver d'autres solutions. Mais il y aurait plus de discussion. C'est fini. C'est un syndicat Il veut, c'est son droit, hein? La convention collective est issue, donc ils ont parfaitement le droit d'aller en grève. Mais à mon avis, c'est une grève là, qui pourrait durer très, 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 très longtemps.
Ah ben ça, je suis d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle, je pense, le syndicat dit on a voté la grève, mais on est prêt à continuer de négocier, tu sais. Parce qu'ils sont conscients que l'appui de la population est fragile. L'appui de la population est derrière les éducatrices qui ont obtenu les augmentations de salaire, pas une augmentation, un rattrapage salarial, on va appeler les choses telles qu'elles sont. Mais je suis pas sûre, moi, que je pense pas que l'appui de la population est derrière le fait de donner un tel rattrapage salarial aux cuisiniers, au personnel d'entretien et à tout le reste. Je suis pas mal certaine qu'il n'est pas là, là. Alors, c'est le début d'une grosse partie de poker, là. Mais moi, je pense que le gouvernement n'a pas le luxe de bouger parce qu'il découvre tout ce qu'il a réussi à gagner avec ses négociations différenciées jusqu'ici.
Ouais, mais ça va être à suivre. Mais c'est drôle, hein? J'ai pas été très sympathique depuis le début à cette approche syndicale. Et puis, mon pif me dit depuis le début que ça va mal tourner. Là. J'écoute le discours, je regarde comment... puis j'entendais ben les ministres qui voulaient tout leur donner, parce que c'est quand même incroyable. Les éducatrices ont tout obtenu, jamais. Je veux dire, je sais pas si le gouvernement... probablement qu'on veut vraiment, régler à long terme, on veut vraiment passer pour généreux, mais le gouvernement a cédé sur tout, leur a tout donné, toutes leurs demandes. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de plus?
Ouais, Mario, c'était tellement honteux, leurs conditions de travail. À un moment donné, là, je veux dire, faut venir sur Terre, là. Tu peux pas convaincre des gens de devenir éducatrices en garderie s'ils vont faire plus d'argent, les marchés des chiens sur l'heure du midi.
Ben, on en recrutait jusqu'à la pénurie de main-d'œuvre, on en recrutait, puis il y avait des augmentations progressives, puis ils ont eu des augmentations dans les dernières années, puis on leur a construit des fonds de pension, ce qu'il n'y avait pas. Ben, c'est le poste budgétaire le plus en augmentation au gouvernement. Alors, peut-être qu'il y avait un rattrapage à faire, parce qu'il y en a de plus en plus qui ont la formation collégiale, je suis conscient de ça. En fait, le gouvernement reconnaît ça. Mais là, 23% d'augmentation, à un moment donné, on peut pas dire, c'est ça, on peut pas dire toujours se passer, mais ça arrête tout, là.
D'accord.
Parlons de Daniel McCann, les suites de ce rapport hier dévastateur sur la première vague en CHSLD. Là, aujourd'hui, ce matin, elle est allée répondre à certaines questions. Ça a été concentré sur les hôpitaux. Là, on avait parlé d'hospitalocentrisme, mais en même temps, se défend là, en disant « Oui, on a envoyé une lettre à tout le réseau, qu'on spécifiait pas hôpitaux, on spécifiait pas CHSLD, mais pour leur dire de mettre à jour leur préparation à la pandémie. » Lettre quand même, faut dire, assez général. Est-ce que c'est convaincant, cette sortie de Daniel McCann, qui semble pas quand même admettre grand-chose?
Il y a deux choses là-dedans. Je pense que Mme McCann, sa sortie, vise à rappeler que c'est pas vrai qu'on va lui faire porter le plat à elle seule. OK? Que elle a été très courageuse en disant c'est ma responsabilité, je l'assume, et je vais vivre avec les conséquences de ça tout le reste de ma vie. Là. Mais en même temps, la sortie politique, c'est de dire, écoutez, je n'ai pas menti, on a envoyé une lettre, c'est comme ça que ça fonctionnait.
Oui, je comprends, mais t'as vu la lettre.
Non, je suis d'accord, c'est un obtus sans limite, là, OK? C'est dans le contexte de l'intersectionnalité du sectionnel, des compétences de vos champs à gaz. C'est incompréhensible. Mais la réalité, c'est que moi, je comprends l'idée. J'aime pas l'idée qu'on lui fasse porter à elle tout le plat. OK? De un, je sais qu'elle est en congé de maladie en ce moment et qu'il faut l'épargner et tout le reste, là. Mais la ministre des CHSLD, là, elle s'appelle Marguerite Blais. La ministre qui était capable de dire au gouvernement, vous êtes malade. Ça ne marche pas. La ministre qui était supposée comprendre la faiblesse des CHSLD, la ministre qui était supposée comprendre le risque que ça posait, c'était pas Mme McCann. Il y a une ministre des aînés, c'est Mme Blais. Alors, on peut pas blâmer Mme McCann pour cet échec collectif sous prétexte que Mme Blais est malade, qu'on l'aime et qu'elle est gentille, là. À un moment donné, la responsabilité des CHSLD, c'était Mme Blais et c'est elle qui a répondu absent. C'est tragique, c'est peut-être injuste parce qu'elle se battait contre une machine hospitalo-centrique je veux bien, mais c'est l'ensemble de l'œuvre, là. C'est pas vrai qu'on va tout mettre sur le dos de Mme McCann dans cette histoire-là, là.
Non, mais c'est une responsabilité collective. Là. Le Québec, collectivement, avait des CHSLD depuis des années qui étaient pourris. Là. Vraiment des institutions fragiles, manquant de personnel, avec pas assez de personnel compétent. C'était ça, nos CHSLD, puis on traînait ça. Là. Écoute, on parlait des bains, on parlait de l'incapacité de donner des bains dans les années 90, puis on en parle encore dans les années 2015-2018, jusqu'à la pandémie. Là. À un moment donné, faut voir les choses. Et au début de la pandémie, autant la santé publique, le docteur Arruda, la ministre Blais, la ministre McCann, ils l'ont tout échappé. Et je suis d'accord avec toi que la ministre McCann ne peut pas porter le chapeau à elle seule. Mais dans ce cas-là, préciser ce matin, c'est un peu risible. C'est pas risible. Elle a prouvé qu'elle n'a pas menti. Il est vrai qu'en janvier, un procès verbal et une lettre là semble démontre que il a été abordé une certaine préparation, un virus en Chine. Il a été abordé une certaine préparation basée sur le virus en Chine, préparation des établissements au sens général. Mais quand tu regardes le texte, tu sais, mais quelle farce monumentale. Des fonctionnaires qui se parlent entre eux avec tout du langage totalement technocratique, d'une préparation. Fait que tu comprends bien que déjà qu'il n'y a pas de gestionnaire dans les CHSLD, quand le PDG d'un CIS ou d'un CIUS revient par ce papier-là sur son bureau, il se passe rien, là. Je veux dire, faudrait être...
C'est ça le problème, là. En même temps, le PDG d'un CIS puis d'un CIUS, là, quand il reçoit ça, c'est dans, supposé être dans un langage qu'il comprend, là, parce que l'outil, c'est un...
Voyons!
Non, mais si, je veux dire, c'est pas toi et moi qui reçoit la lettre. Non. C'est lui, là. Alors, il est supposé comprendre. Puis, alors, c'est une responsabilité collective. Et moi, ce qui m'inquiète profondément, et je pense que, c'est de toutes les questions sans réponse, alors qu'on commence à construire la toile de cette tragédie, c'est cette étude, cette note de l'INSPQ qui indique que les CHSLD vont être vulnérables en temps de pandémie et qu'ils pourraient perdre jusqu'à 30% de leur personnel.
Mais on l'a pas vu, cette note-là.
On l'a pas vu. Ça vient du témoignage, là, de la directrice qui l'a écrit à l'INSPQ. Mais ça, qui l'a reçu et qui l'a échappé? Et ça, je pense que c'est un peu, ça fait partie de la clé du mystère autour des CHSLD, parce que tout le monde dit, on voyait l'Italie, on voyait l'Europe, on voyait New York, tout le monde freakait, ventilateur, etc. C'est pour ça qu'on s'est mis là-dessus. On ne savait pas. Mais il y a un document qui existe qui les a mis en garde. Et ça, pour moi, c'est le grand mystère.
Le gouvernement se fait pousser dans ses derniers retranchements pour fournir des réponses qui sont nécessaires et qui sont certainement dues aux familles des personnes décédées. Je disais tout à l'heure à Vincent, j'ai quand même un point de rupture, un point de raccrochage. C'est quand l'opposition veut trop en mettre. C'est-à-dire, on retourne dans les travaux de l'Assemblée nationale de février 2020. Il n'y a pas un député d'aucun parti là qui s'est levé quotidiennement en chambre à dire je suis inquiet pour nos personnes âgées, je suis inquiet pour la qualité de la préparation de nos CHSLD par rapport.
Oui, en parle aujourd'hui comme si c'était une évidence à l'époque.
Il en parle comme si c'était une évidence à l'époque, mais à l'époque là, il était pas meilleur que le gouvernement, que Marguerite Blais. Il y a personne qui a interrogé. C'est peut-être que si Marguerite Blais s'était fait ramasser en chambre en disant tu t'occupes pas de préparer les CHSLD, elle serait retournée à son bureau puis elle aurait. Mais veux dire l'opposition n'a rien vu. Bon, à la défense de l'opposition, le gouvernement a accès à tous les spécialistes, aux médecins de la santé publique, à plus de ressources. Je conçois bien ça. Mais néanmoins, c'était quand même un petit peu gros de l'opposition de faire comme si, en février 2020, tout le monde voyait ça, là, tu sais, la situation qui allait arriver aux personnes âgées, alors qu'ils avaient, à l'époque, jamais mentionné ça. En fait, ils parlaient même pas de la COVID, très peu à la période de questions.
Mais Marie-Emmanuel, est-ce que ça, parce que Mme McCann n'est même plus dans son poste, mais est-ce que dans ce cas-là, vous vous rappelez, en février, là, celui vers qui on aurait dû se tourner à ce moment-là, ou celui qui aurait dû se tourner vers tout le monde pour les alerter, c'est le docteur Arruda, directeur national de la santé publique. Puis si la lettre est un peu obtuse, comme tu dis, Emmanuel, peut-être aussi parce que notre directeur de la santé publique lui voyait pas de problème, était pas inquiet de la pandémie du tout au mois de février.
Là. La peur, ça fait faire des crises de folie.
Ben, c'est ça, s'inquiétait du racisme là, envers les Asiatiques, mais c'était pas, il sonnait pas la cloche là à ce moment-là du tout. Est-ce que ça part pas
non,
un peu de là?
Ben, moi, je suis convaincue. que ça part de là. Ça fait longtemps que je le dis. Maintenant, l'enjeu, c'est au-delà de trouver des coupables, il y a une faille quelque part dans le processus de décision autour de cette pandémie-là. Et là, il reste finalement la commissaire à la santé pour le trouver. J'espère qu'elle va le trouver. Elle a l'avantage de faire son enquête en privé. Hein. Puis on l'a compris des propos de Mme Rinfret, de faire ton enquête loin des regards, ça permet de délier des langues de manière beaucoup plus facile. Hein. Et ça semble être sous-entendu que Mme Rinfret a eu accès à des documents grâce à ça qu'elle n'aurait pas eu sur une place publique. Mais là, le problème, c'est que le gouvernement va se faire demander jour après jour après jour après jour